France Inter, le 18-20.
Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Merci Pierre de Coubertin pour cette remarque dont on vous accordera qu'elle date de 1912. Et paix à votre âme, enfin quand même, voilà d'où l'on part. Les femmes n'auraient donc même pas le droit de participer. On est bien obligé de constater que les choses ont changé. Heureusement, ça a mis du temps, c'est vrai, mais enfin ça a changé. Désormais, on est contente et content de féliciter les femmes lorsqu'elles gagnent. Et au moins désormais, on le montre, les femmes qui gagnent en sport savent désormais faire les ouvertures des journaux, les couvertures. C'était le cas de l'équipe lundi matin. C'était bien les handballeuses de l'équipe de France qui étaient en une. On est content aussi de les interviewer, mais vous aurez remarqué comme moi qu'on continue quand même. Quand on écoute certains commentateurs, à trouver que tout ça est bien mignon. Bref, plus de visibilité, plus de sponsors sans doute, et on va en parler, des disciplines comme peut-être l'athlétisme qui ont toujours été mises en avant, mais des sports collectifs qu'on ne peut plus ignorer désormais, des salaires aussi peut-être plus bas, des pubs qui sont moins chers, et quel argent pour les formations, pour les clubs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les sportives sont des sportifs comme les autres? Est-ce qu'on est encore loin du compte? C'est à vous de nous le dire et de témoigner, c'est maintenant.
Fabienne Saintès, le téléphone sonne.
Et bonjour François, bonsoir François, c'est vous le premier, bonsoir. Soyez le bienvenu, on vous écoute.
Bah oui, je disais à votre collègue au Standard que samedi matin, en me levant et en regardant la une de l'équipe, j'étais surpris, voire, allez, en tant que le mot choqué, mais très déçu de ne pas voir l'équipe de France féminine de handball à la une, alors qu'ils avaient récupéré leur billet pour la finale la veille. Et c'était juste Neymar, on se posait la question si comment il serait deux matchs d'absence. Donc voilà, et puis le lendemain, je crois même que le jour de finale, ce n'était pas elle aussi, l'équipe de France, en une de l'équipe.
Alors qu'on c'était est le lendemain quand même... en fait, il a fallu attendre le lendemain,
ouais,
c'est venu après.
Ouais. Il faut attendre vraiment qu'ils gagnent une finale et qu'ils soient au sommet pour vraiment qu'ils aient l'intérêt des médias. Alors que je trouve que, ce que je disais à mes collègues, ils ont une responsabilité justement dans cet enjeu de mettre le sport féminin à la même hauteur que les sports masculins. C'est eux qui nous disent ce qu'il faut lire, ce qui est important, en mettant une. Et donc c'était à eux, là, ce week-end, de mettre cet événement sportif qui était le plus important pour nous, Français, en une de l'équipe, quoi. Et donc je trouve ça dommage et scandaleux. Et ce qui prouve encore une fois que le journal d'équipe, Pour le citer, en fin de compte, c'est un journal pas masculin. Il connaît ses lecteurs et peut-être certainement c'est peut-être plus des hommes. Donc du coup, ils ne prennent pas cette responsabilité de faire changer les choses et de mettre le sport féminin en avant.
Merci beaucoup pour cette entame de téléphone sonne, François. Vous avez fait beaucoup rire Béatrice Edwige. Bonsoir. Vous êtes joueuse de handball, vous êtes championne du monde. Félicitations. Vous êtes venue avec votre médaille d'ailleurs. Oui. Et tout à l'heure, vous allez me la montrer parce que je voudrais bien toucher à quoi ça ressemble une médaille d'or. Bon, bonsoir aussi Frédéric Josnet. Vous êtes judokate, vous êtes aussi directrice de football féminin, preuve qu'on peut changer aller d'une discipline à l'autre. Attendez, bougez pas, je regarde la médaille. Ah oui, c'est du vrai de vrai.
Elle est belle.
Oui, elle est très très belle avec un joli truc en relief derrière. Je vais la garder pour un petit bout de temps. Mais bonsoir Aurélie Bresson. Vous êtes directrice du magazine Les Sportifs. Vous allez nous raconter justement si les magazines sont prescripteurs pour le sport féminin ou s'il faut effectivement en créer un pour qu'on en parle vraiment. Et bonsoir à vous Fabrice
bonsoir.
Rigobert du service des sports de Radio France. Béatrice Edwige, c'est vrai que vous avez fait la une, hein, mais vous l'avez fait lundi. En fait, faut attendre de gagner.
Moi, je sais qu'on l'a fait tardivement et je sais que moi, j'étais très choquée. J'en ai parlé, je crois, quasiment chacun de mes interviews en disant que je trouvais ça quand même scandaleux que ça soit Neymar qui fasse la une. Ok, il revient de suspension. Ok, ouais, on s'en moque en fait. Il y a quelque chose de plus important qui se passe pour la France et pour le sport français. Pour que ça soit Neymar et le PSG qui fassent la une.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a un décalage en fait? Parce qu'il y avait de l'engouement autour de ce championnat du monde, il y a un décalage entre la manière dont c'est vécu et comment c'est ensuite couvert par nous, les journalistes, et au sens large en fait, hein, pas seulement l'équipe.
Ouais, moi je pense que oui. Et le pire c'est que ce matin, les filles disaient que malgré la une, on était quand même à la, je crois, 17e page dans l'équipe.
Exactement.
Et que ça en venait à être fou, en fait, qu'on soit pas quasiment tout de suite après, à la deuxième page. Je sais pas. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, la journaliste qui nous suit depuis quelques compétitions...
La journaliste, c'est toujours intéressant de voir que ce sont des femmes qui suivent les sportives.
Anoukourche qui nous suit, on a l'impression qu'elle essaye vraiment de faire son maximum, mais que ça bloque un peu plus haut, quoi, et qu'elle y peut rien, donc c'est dommage.
Aurélie Bresson, vous qui avez créé le magazine Les Sportifs, c'est précisément pour ça que vous l'avez créé, parce qu'on en parle si peu que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Finalement, c'est ça l'idée.
Exactement. En fait, je me suis dit, si on ne parle pas des sportives dans
dans les médias, pourquoi les sportives ne prendraient pas les choses en main, avec un média qui s'appelle Les Sportives, et on laisse la parole à toutes les sportives. Après, je suis partie aussi du constat qu'en France, il y a le foot et les autres disciplines. Et l'équipe, en fait, ils font un peu ça, c'est qu'ils font que le foot, et après, à partir de la 17e page, on parle des autres disciplines. Et pour les femmes, c'est la même chose. Après, on parle de retransmission et d'audiovisuel, mais c'est vrai qu'il n'y a eu aucune étude de fait sur la presse papier et à la radio. Quelle est la part des femmes et du sport féminin, en fait, en termes de radio et en termes de presse écrite.
Fabrice, vous avez préparé votre texte, je vous écoute. On a fait les ouvertures, nous, sur France Inter. Vous êtes le seul ici. On a fait des ouvertures, mais c'est vrai, Fabrice, objectivement, qu'on a tous mis du temps avant de parler de presse féminine. Quand on y va, on a mis du temps à le faire.
Pas Radio France. Je veux remettre certaines choses à leur place. Nous couvrons depuis un bon nombre d'années les compétitions féminines et masculines, que cela soit en handball, en basket, je discutais avec Frédéric Jossinet, vice-championne olympique de judo, en judo également. Nous avons essayé toutes ces années d'accorder autant d'importance aux femmes qu'aux hommes. Après, il est vrai que nous réagissons, nous aussi, en tant que médias, en fonction de sports qui arrivent en tête en nombre de licenciés, à savoir le football. Le football reste le sport numéro un. Il y a ensuite le tennis. Et on traite ainsi. On traite comme ça ces sports-là. Donc on accorde de la place à l'exploit et on est ravis, bien entendu, lorsqu'il y a des exploits féminins dans le sport. D'ailleurs, je ne dis pas sport féminin, je dis sport. Le sport au féminin. Et je pense que c'est important de le dire.
Frédéric Jossinet, allez-y.
Oui, déjà, je salue la remarque parce que c'est vrai qu'avant tout, c'est du sport. Le handball féminin, le football féminin, le basketball féminin. C'est soit du basketball, soit du foot et soit du hand. C'est vrai que c'est pas assez dit, mais on aime bien souvent mettre féminin derrière les sports co, notamment les sports co majeurs. C'est comme si on devait apporter une spécificité, voire une légitimité en fait à la discipline. C'est toujours un peu embêtant, je pense, en tant que pratiquante. Et ça, faut peut-être plus poser la question à Béatrice. Moi, honnêtement, j'ai pas fait du judo féminin. J'ai fait juste du judo en fait. Et quand je suis arrivée en effet au football, où on m'a dit c'est du foot féminin, au début, j'ai pas quand même, c'était un peu.
Est-ce que
les règles sont différentes? Évidemment, je savais que c'était pas différent.
Exactement.
Je savais évidemment que c'était pas différent, mais quand on met un mot comme féminin derrière, en effet, le football,
c'est
on dit
traducteur.
Exactement. Et du coup, c'est vrai que c'est mieux déjà de parler de football. Après, juste pour rebondir sur le terme performance. Et du coup, c'est pourquoi en fait l'équipe a fait la une seulement après la victoire. Quid de si vous aviez eu la médaille d'argent, est-ce que vous auriez eu quand même fait la une alors que c'était
non.
déjà
bien
une belle
sûr,
performance
non.
Exactement.
Bien sûr que non.
Donc en fait, la problématique, elle est là. On en parlait tout à l'heure. Autant on peut
les médias peuvent. En gros, faut être meilleur quand on est une femme. Faut gagner.
Performant.
Faut gagner.
Et non seulement faut être performant. Ou performante, du coup. Mais en plus, il faut que ces performances soient dures dans le temps, en fait. Ça, c'est ce qui va légitimer, on l'a vu avec le basket, notamment féminin, donc le basketball, où c'est vrai que les féminines ont performé au jeu, puis au championnat d'Europe, puis au championnat du monde. Et du coup, ça s'installe dans le temps. Mais sinon, c'est vrai que c'est toujours compliqué, y compris sur les contre-performances, où autant le football ou le basket, où les équipes de France masculines, du coup, font parler en termes de contre-performances. Chez les féminines, ça n'existe pas. Une fois qu'il y a une contre-performance derrière, on n'en parle plus, c'est comme ça, et puis à l'année prochaine.
Mais déjà, ce qui est marrant, c'est quand on dit il faut qu'on atteigne l'exploit. Pourquoi on est obligé d'atteindre l'exploit pour qu'on parle de nous, en fait? Je ne comprends pas ce truc de tout le temps. Ça veut dire qu'on est toujours. Il faut toujours qu'on se batte, en fait, pour avoir un petit 5 minutes, une petite ligne, parce que le handball en soi, là on parle de l'équipe de France, mais après ça on passe à un niveau un peu plus...
Le championnat n'existe pas, vous voulez dire
ouais. Ben non. Non, je joue à Metz, Metz Handball qui est le plus grand club de France, on a gagné 21 fois le championnat de France, on est en Ligue des Champions. On n'en parle pas, en fait. On n'en parle pas.
On parle aussi assez peu du championnat messieurs. Plus, il y en a sans doute plus dans l'équipe.
Oui.
Mais si je parle de mon domaine, à savoir la radio, on ne parle quasiment jamais du championnat de France de handball, que ce soit chez les chez les garçons ou chez les filles. C'est oui, il y a sans doute un problème.
Mais même au niveau du papier, hein, au niveau de la PQR, c'est la même chose.
La presse quotidienne régionale.
La presse quotidienne régionale, oui, le jargon est un peu mieux vulgarisé. C'est vrai qu'ils parlent tout de suite de la performance et des résultats, mais jamais de vos histoires, vos entraînements, de votre préparation. C'est toujours sur, vous avez fait un résultat, on parle de vous.
Il faut faire un résultat. Mais les choses changent.
Il y a aussi quelque chose qui m'intrigue, Béatrice Edwige, moi j'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce qu'il y a une manière genrée de poser des questions aux femmes par rapport aux hommes au moment de couvrir une victoire? Parce que moi je peux pas m'empêcher de constater qu'on demande à des hommes de commenter leur performance, on demande très rapidement à une femme comment ça se passe dans sa vie. On a l'impression qu'il y a quelque chose de très différent, y compris dans l'après-match en fait.
Oui, et puis on nous demande alors vos émotions.
C'est encore pire si t'es maman.
Voilà. Après c'est vrai que c'est compliqué quand on est encore plus maman. Par exemple, nous là on est parti dans tous les sports, mais on est parti sur un mois de compétition. Parce qu'en fait les gens voient maintenant que on a l'impression que là on existe depuis 4 jours. Mais comme elle dit, la préparation.
Non, vous avez été vice-championne olympique quand même.
Voilà, et puis on est parti depuis le 21 novembre en fait. On est parti depuis le 21 novembre et on est rentré ce matin. Donc c'est très long. Et oui, c'est vrai qu'on est toujours dans ce genre de questions.
Il y a quelque chose de moins technique, il y a quelque chose de plus...
On ne parle pas trop de technique.
Peut-être parce que aussi les journalistes qui vous intéressent se sentent un petit peu moins à l'aise, parce qu'ils connaissent moins aussi, et du coup, ils ne savent pas trop aussi les questions qu'ils ont à poser.
Alors ça, honnêtement, ça c'est le calvaire pour moi. Un journaliste qui débarque pour la finale, et j'ai l'impression qu'on doit lui expliquer tout notre sport.
Pas les règles quand même, rassurez-moi.
Détrompez-vous. Il y en a vraiment qui connaissent rien du tout. Et c'est un calvaire, ça. Et c'est ça. C'est pas trop technique. Pour nous, ce qu'ils veulent, c'est de l'émotion, c'est comment on s'est ressenti, c'est qu'il y a un peu d'empathie dans la discussion, en fait. Mais bon, c'est marrant, on fait avec.
Ouais, voir un peu de beauté dans le geste, voilà, etc.
En fait, c'est un peu aussi, dans le dernier numéro du magazine Les Sportives, on en avait parlé justement, est-ce qu'une sportive, elle doit être toujours féminine? Alors qu'on ne demande pas à un athlète, à un sportif, d'être masculin, on lui demande juste d'être performant.
Mais on va y revenir là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de questions, effectivement, au 01 45 24 7000, de cette sorte-là. Je voudrais d'abord qu'on écoute Marie. Bonsoir, Marie. Marie.
Bonsoir.
Et on vous écoute, Marie, allez-y.
Oui, voilà, j'avais un témoignage à faire au sujet de ma fille, Constance, qui a été très rapidement attirée par le football, donc vers 10-11 ans. Et elle a commencé, en fait, par jouer dans une équipe de garçons. Et elle aimait beaucoup. Simplement, c'était difficile puisqu'il n'y avait pas de vestiaire pour les filles. Donc, elle se changeait dans les buissons à côté. Et j'ai découvert ça, en fait, en allant la voir une fois. Pareil, il y avait à un moment donné, elle faisait une passe très très belle, et il y avait un homme à côté qui me dit « Quel est ce jeune homme aux cheveux longs ?» Et voilà, ça c'est très intéressant de voir que c'est pas possible d'imaginer que ce soit une fille. Et puis ensuite, elle a continué au PUC. Là, elle a rejoint donc une équipe de football au féminin, comme disait votre invité. Et là, elle s'est complètement développée, elle s'est épanouie, et elle a eu la chance d'être qualifiée pour les sélections de Clairefontaine, voilà, et qu'elle n'a pas réussi, mais je veux dire, elle a vraiment passé énormément de plaisir à jouer.
Et elle joue toujours. Elle joue toujours, Marie, ou pas, votre fille?
Alors là, elle fait des études et elle est passée au Ferrer, elle est passée au rugby au féminin.
D'accord.
Et puis là, elle est passée au hand.
D'accord.
Voilà, donc elle a quand même fait 6 ans de foot.
Elle a beaucoup changé de taille de ballon, hein, si je puis me permettre. Elle a beaucoup changé de taille de ballon.
Elle est restée dans les sports pro.
Oui.
Voilà. Et ce que je voulais juste dire, c'était que moi, j'ai vu une énorme évolution par rapport à mes amis, par rapport au regard que les amis pouvaient porter sur son sport. Et autant il y a 8-9 ans, c'était quelque chose d'assez étrange. Autant maintenant, les gens connaissent beaucoup. C'est beaucoup plus populaire le foot au féminin. C'est même presque la grande classe, quoi.
Merci beaucoup pour votre question, pour vos remarques, Marie. J'en profite pour saluer Béatrice Edwige. J'ai dû lui rendre sa médaille d'or avec beaucoup de regrets, je dois dire, mais qui a attendu ailleurs. Merci pour ce petit passage express, et encore bravo pour cette médaille d'or que vous avez raison de garder autour du cou. Frédéric Jossinet, sur ce que disait Marie à l'instant, on progresse quand même. Moi, j'ai l'impression que dans les écoles, dans les clubs, il y a quand même un vrai accès à un vrai foot, un vrai hand, un vrai rugby qui peut être aussi féminin, non?
Alors, je vais répondre déjà pour le le football, mais il y a une remarque de la part de Marie qui est très intéressante et qu'on connaît bien à la Fédération française de football. C'est en effet les problèmes et les problématiques de vestiaire, d'accueil, ouais. En fait. C'est vrai que c'est une vraie problématique. Juste pour rappeler, il y a 5 ans, on était moins de 50 000 pratiquantes licenciées féminines. Aujourd'hui, on est à plus de 130 000. Donc, c'est vrai qu'on va pendant 5 ans, on s'est attaché à développer le foot féminin, à beaucoup aller recruter sur toutes les catégories d'âge. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux sur l'accueil en fait de ces féminines pour qu'elles aient leurs propres vestiaires féminins, parce qu'en effet on s'aperçoit que aussi souvent ces féminines arrêtent à partir de 11-12 ans, soit parce qu'elles ont envie de jouer dans des équipes 100% féminines, et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des clubs 100% féminins encore à l'heure actuelle, et parce qu'aussi il y a des problématiques d'accueil et d'infrastructure au regard en effet des problématiques de vestiaires ou de créneaux horaires où les féminines jouent plus tard que les garçons, etc. Mais on est vraiment à la fédération en train de structurer et d'avoir une attention particulière sur les infrastructures et les structurations des clubs, et notamment dans le cadre de l'accueil de la prochaine Coupe du Monde, qui va nous permettre justement de passer un cap et d'avoir de se focaliser justement sur la qualité d'accueil dans les clubs de foot, sur les sections féminines.
Mais ôtez-moi d'un doute, désormais quand on crée un club, on crée des vestiaires féminins désormais.
Et ben, dorénavant, il y aura une attention en effet particulière sur la création de vestiaires 100% féminins, ou en tout cas réservés en priorité aux féminines.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle les jeunes filles, moi je regardais un sondage extrêmement intéressant qui disait que les jeunes filles font moins de sport que les jeunes hommes, en fait, notamment entre 16 et 24 ans, qui avait 63% des jeunes hommes et autour de 50% des jeunes filles. En gros, est-ce que c'est l'une des raisons ou pas? Aurélie Bresson peut-être, ou Frédéric Jossinet.
Moi, je pense que ça peut, mais pour avoir aussi vu les chiffres dans d'autres sports et pas que des sports collectifs où il n'y avait pas des problématiques d'accueil ou de vestiaire, c'est aussi après l'âge qui fait que à un moment donné, peut-être que les jeunes filles se mettent plus aussi dans leur parcours scolaire universitaire, qu'elles ont aussi envie d'être avec leurs copines, etc., et qu'elles font pas toutes forcément le même sport, et qu'elles aimeraient aussi se retrouver dans un endroit, soit pour faire de la pratique sauvage, de plus en plus, plutôt running, etc., etc. Soit c'est parce qu'aussi elles ont envie de faire du sport entre elles, et que toutes les pratiques ne le permettent pas.
Didier nous appelle au 01 45 24 7000. Didier, bonsoir, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonsoir. Bah écoutez, moi, de même que à propos de l'équipe, là, j'ai été écœuré, mais sur les télévisions, c'est exactement la même chose. Je ne comprends pas que pour un sport minoritaire ou un sport féminin, on soit obligé de s'abonner à des chaînes privées ou BIN ou l'ACT TMC. Et puis, lorsque c'est retransmis, c'est uniquement à partir de la demi-finale ou de la finale. C'est absolument anormal, d'autant que les filles sont comme tout le monde, elles payent des cotisations dans les clubs, elles payent des impôts. Je ne vois pas pourquoi des gens qui payent normalement et leurs impôts et les cotisations aux fédérations ne sont pas présents sur les chaînes, et en particulier sur les chaînes publiques.
Merci pour votre remarque, Didier. Tiens, j'ajoute cette remarque de Liliane sur franceinter.fr qui m'a fait beaucoup rire. L'égalité sera acquise le jour où on retransmettra un match féminin chiant, dit-elle. Comme pour certains, match de foot au masculin. Pour l'instant, il faut qu'elle gagne un championnat du monde pour que les féminines fassent la une. Frédéric Jossinet, c'est vrai que les chaînes annexes, on va dire, éventuellement existent un peu. Les grandes chaînes, c'est une autre histoire.
Oui, enfin, il y a quand même TF1 qui a acquis les droits de la prochaine Coupe du Monde en France. Le produit foot féminin, que ça soit le championnat ou le championnat de D1 féminine ou l'équipe de France aussi a été vendu, on va dire, quand même à une somme très importante, avec un championnat qui va être diffusé aussi sur des chaînes en clair, des matchs de l'équipe de France féminine qui sont aussi diffusés sur des chaînes en clair et public. Je pense qu'il y a depuis 2 ans, il y a un vrai engagement aussi de la part des chaînes plus importantes.
Et rendons pardon à César César ce qui appartient à César. 20% du volume horaire des retransmissions sportives à la télévision. 20%, c'est pas beaucoup quand on y songe, mais enfin, c'était 7% en 2012.
Exactement. 6% même.
6% même en 2012. Exactement, donc, preuve qu'on avance, Fabrice Rigobert.
Le foot au féminin a permis, a tiré vers le haut, je le pense, toutes les autres disciplines, que cela soit le handball ou le basket. Après, il y a eu, pour le basket, une certaine Céline Dumerc emblématique qui a permis d'améliorer les choses. Que je tenais aussi à préciser, c'est que ce boom du foot au féminin intervient après Naïsna 2010, à un moment donné où l'équipe de France ou les garçons se sont pas bien comportés. On s'en est un peu désintéressé, on s'est tourné vers les femmes à ce moment-là et on s'est aperçu, ah tiens, le foot au féminin, ça peut être pas mal. On a commencé à attirer des gens dans les stades et là, il y a eu des retransmissions et de fil en aiguille, on en arrive là. Alors après, attention, il ne faut pas que les joueuses, les sportives se comportent comme les messieurs. Tout à l'heure, on parlait avec Béatrice Edwige de « Oui, mais pourquoi est-ce que on nous pose telle ou telle question ?» Nous aimons bien avoir un peu d'authenticité. Là, je parle de l'intervieweur, d'avoir de l'émotion. On aime que cela nous soit raconté. On n'aime pas forcément que ce soit ballon.
Ce que vous dites, c'est que les garçons ne vous le racontent pas et vous le regrettez finalement.
Exactement. Et on va chercher ça chez les femmes. Vous savez, mesdames, beaucoup mieux raconter que les hommes ce que vous faites sur les terrains.
Aurélie Bresson, moi je suis assez curieuse, dans les sportives d'ailleurs, est-ce qu'il y a plus de foot, de toute façon, même au féminin, est-ce qu'il y a plus de foot que d'autres sports, ou est-ce que justement on fait attention à la parité des pages?
Alors sport, on calcule pas du tout, hein. On parle de sport avant tout, et on parle de toutes les disciplines. En fait c'est pour ça que les sportives magazine s'appelle les sportives, parce que quand on pense à une sportive... Mais on pense à toutes les sportives. On pense à sa voisine, on pense à une sportive de haut niveau, on pense aussi bien au running qu'au football, qu'au hand, qu'à la boxe. En fait, ce magazine, c'était avant tout pour raconter des histoires, des reportages. Ce qu'on oublie de plus en plus dans les médias existants, c'est de parler aussi des sujets transversaux sur le handicap, sur l'éducation, toute cette toile d'araignée qui fait le sport aussi et pas que la performance en fait.
Et est-ce que vous savez si vos lecteurs sont plutôt féminins, plutôt masculins, 50-50, il y a un pourcentage, ça marche comment?
Alors en fait, les premiers consommateurs de sport et de lecture sportive restent des hommes. Du coup, la moitié des lecteurs du magazine, enfin des abonnés, du magazine Les Sportives sont des hommes, puisqu'en fait c'est du sport avant tout. Et forcément, pour parler de sport au féminin, il y a aussi des hommes qui entraînent, des hommes qui dirigent le sport au féminin. Du coup, c'est totalement la place aux hommes comme aux femmes dans les sportives.
Et je voudrais qu'on écoute Jeanne. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir.
Quel âge as-tu Jeanne?
10 ans.
T'as 10 ans. Raconte-nous un petit peu ton histoire de basket parce qu'elle nous intéresse grandement. Vas-y.
C'est dans mon cours de basket, je joue avec des garçons et des filles, et les garçons ne font pas souvent la passe.
Et ouais, et du coup c'est compliqué pour toi.
Mm-hmm.
Et est-ce qu'ils te disent pourquoi?
Non.
Et est-ce que tu leur demandes?
Non.
Et est-ce que tu vas leur piquer la balle?
Oui, parfois.
Il faut le faire tout le temps.
D'accord.
Va chercher la balle et demande-leur, Jeanne, mêlée devant le fait accompli, demande-leur pourquoi t'as pas la balle alors que c'est toi qui es sous le panier et que tu pourrais marquer. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Mais tu continues à jouer au basket, Jeanne, quand même?
Oui.
Bon, et ça t'a pas dégoûté?
Oui.
Et toujours en mix avec les garçons, toujours?
Oui.
Et voilà, et ben c'est toi qui as raison. Merci beaucoup, merci Jeanne pour ton petit passage au téléphone sonne. Deux choses dans la question de Jeanne, Frédéric Jossinet d'abord. Ça commence très tôt, hein, d'éduquer les enfants, effectivement, au fait que le sport, c'est pas un truc de garçon.
Non, le sport, déjà, la preuve, ça se pratique aussi, et la plupart du temps, à l'école, en mixité. C'est quand même là où on commence aussi le sport. Il y a beaucoup de sports où, évidemment, les filles sont mélangées aux garçons dès le plus jeune âge. Donc, évidemment que l'éducation doit passer aussi... en tout cas, doit être fait dès le plus jeune âge, que ça soit à l'école ou après dans les clubs associatifs. Je pense que ça, c'est très important. Après, en effet, je pense que c'est le rôle aussi des éducateurs, c'est le rôle des entraîneurs de éduquer aussi bien les garçons que les féminines aussi. Et, parce qu'il n'y a pas que des... là, on parle, c'est vrai, de mixité, mais il y a aussi des sports plutôt, on va dire, à connotation féminine. où il y a aussi des garçons qui ont envie de pratiquer aussi avec les filles. Et donc je pense qu'il faut, c'est pour ça que j'aime bien parler de mixité plutôt que de féminisation ou de sport féminin, etc. Parce que je pense qu'il peut y avoir les deux problématiques. Donc en effet, bien évidemment, mais comme dans tout, finalement, c'est une question d'éducation à la base.
Et on va rester sur le même sujet. Bonsoir Cécile.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y Cécile.
Moi, c'était plus un témoignage à la base. C'est que je fais du hand, j'en ai toujours fait. Et j'étais plus jeune dans des équipes en effet féminines. Et maintenant que je suis plus âgée et que j'ai plus la niaque, je fais du loisir et c'est une équipe mixte. Et donc, on se rencontre de temps en temps, on fait des petits tournois avec d'autres clubs de la région, mais c'est toujours mixte. Et je me disais, pourquoi ne pas faire des équipes mixtes, même en championnat, en compétition officielle, voilà. Avec peut-être certaines règles, en effet, d'un nombre de garçons et de filles sur le terrain pour que ce soit équilibré. Mais en plus, ça, c'est vraiment une super ambiance, quoi. Tout le monde fait attention à l'autre.
Et alors, ça marche peut-être en amateur, je suis pas sûre que ça marche jusqu'à la compétition. Merci Cécile. Et encore que, après tout, il y a eu des doubles mixtes. Fabrice Rigobert, je vous regarde, ça existe toujours
oui,
ou pas?
Oui, le tennis revient avec le double mixte, bien sûr. D'ailleurs, on apprend que Marion Bartoli reprend le fil
exactement,
de sa carrière.
À l'instant, qui reprend le fil de sa carrière. Ben, écoutez, on est ravis pour elle et on la suivra évidemment avec beaucoup d'intérêt. On lui demandera pas seulement comment elle va, on lui demandera aussi comment va son tennis. Les équipes mixtes, Frédéric Jocinet, pourquoi pas ou pas?
Bah, jusqu'à un certain niveau, pourquoi pas, ça se fait déjà. Il y a des pratiques plutôt même foot à 8, foot à 5, etc. où on voit qu'il y a une pratique en mixité. Ça m'arrive de faire des foot 5 avec des collègues, on joue en mixité et ça marche très très bien. En effet, tout le monde s'adapte. C'est des fois au contraire un peu plus technique, on va dire, quand il y a justement des féminines ou en tout cas quand il y a une pratique mixte. Je pense qu'on voit aussi de plus en plus de compétitions qui sont en train de se monter en vue notamment des prochains Jeux Olympiques, où il y a quand même le CIO qui demande une certaine parité sur les disciplines, où on s'aperçoit qu'il y a des... Par exemple, je vois en ce moment que le judo, notamment, essaye un mode de compétition mixte. Alors, c'est pas les filles contre les garçons, mais c'est une équipe mixte avec exactement une certaine parité. Et je trouve ça plutôt sympa. Et apparemment, c'est en train de bien prendre parce que ça intéresse le spectateur.
Oui, bon. Ça a été inauguré au championnat du monde et ça a plutôt bien fonctionné, effectivement.
Bonsoir Jean-Louis.
Et bonsoir.
Et on vous écoute Jean-Louis, soyez le bienvenu.
Oui, c'était simplement un témoignage, je fais partie des hommes qui regardent relativement peu le sport, pratiquement à l'exception du sport féminin, et que ce soit du judo, de l'escrime, du handball, du basketball, pas le football parce que j'ai une certaine aversion pour le football, et ce que j'apprécie, c'est quelque part l'esprit d'équipe, le collectif. On l'a vu dans le handball. On sent un engagement total de l'ensemble des joueuses. Quand on les interroge, c'est ce que disait tout à l'heure un de vos journalistes, on a l'impression quand même que les personnes maîtrisent un peu la langue française et sont capables d'avoir un regard distancié sur ce qu'elles font. Voilà, il y a beaucoup moins de testostérone et beaucoup plus d'intelligence et ça donne vraiment envie de voir plus de sport. Et une remarque sur un certain nombre de sports à classement, je pense au tennis de table que je pratique en compétition, puisqu'il y a un classement, qu'est-ce qui interdirait les femmes de se mettre dans les compétitions comme les hommes et de monter dans le classement? Et à la fin, de toute façon, on verrait bien quelles sont celles et ceux qui sont capables d'être en haut du classement. Enfin, il y a vraiment beaucoup à faire et je retiens aussi ce qui a été dit sur l'équipe. C'est vraiment un journal. Je ne le lis que quand je prends l'avion et à chaque fois je suis très content de ne pas l'acheter parce que c'est voilà. Il n'y a que le football et je trouve ça vraiment lamentable qu'il n'y ait pas un média qui puisse donner la place à l'ensemble des sports, car le sport c'est un modèle de vie, c'est apprendre à être collectif, c'est apprendre à respecter des règles, et c'est absolument fondamental.
Merci beaucoup pour cette remarque, Jean-Louis. Ah ben, attendez, Aurélie Bresson voudrait reprendre votre message et l'utiliser comme sonnerie de portable.
Exactement.
Comme ça, elle l'aura constamment avec elle. Aurélie Bresson, directrice du magazine Les Sportifs. C'est vrai, quand on écoute les gens, on se dit qu'il y avait vraiment un manque quelque part, et on se dit, mais comment ça se fait que vous êtes les seuls, alors, finalement, à vous occuper exclusivement, parce qu'après tout, magazine féminin, magazine spécialisé dans 1000 choses, et vous êtes la première.
En fait, il y a eu d'autres magazines qui ont essayé de voir le jour, mais c'était sûrement trop tôt. Les mentalités n'étaient forcément peut-être pas prêtes, parce qu'il faut rappeler finalement que les femmes peuvent participer et peuvent faire du sport et ont participé aux Jeux Olympiques que récemment, c'est qu'en 1900, et la parité était presque parfaite aux Jeux Olympiques. Les femmes étaient représentées dans toutes les disciplines olympiques qu'au JO de Londres, donc c'est très récent. Donc je pense qu'on revient de très loin sur la place de la femme dans le sport. C'est pour ça que au niveau médiatique, on en est là aujourd'hui. C'est parce que le bond en moins de 10 ans est assez énorme. Mais quand on regarde sur beaucoup plus loin, c'est vrai qu'on a encore du chemin à faire. C'est pour ça que c'est qu'aujourd'hui que le média voit le jour.
Après, je pense très clairement qu'il ne faut pas limiter tout cela au sport. Le sport est juste à l'image de la société.
Ah, exactement.
Et aujourd'hui, on arrive à cette progression parce que tout change. Tout est en train de changer. Et on en récoltera les fruits dans les années qui viennent. Les exploits de Béatrice Edwige en handball, les exploits en basket, les exploits en judo, on va continuer à les suivre parce qu'ils se multiplieront tout simplement.
François nous appelle au 01 45 24 7000 sur France Inter. François, on vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonsoir. Oui, en fait, j'appelais moi parce que je me suis rendu compte que souvent, lorsqu'on parlait de sport féminin, on était toujours obligé de rendre sexy les athlètes. Vous faites un article sur une surfeuse ou par exemple une skieuse, il va forcément falloir mettre une photo d'elle dans une tenue un peu aguicheuse. Et pareil à la télé, tout ce qui est sport qui fonctionne, comme le beach volley, ce genre de choses, on est toujours obligé de rendre ce côté sexy pour attirer en fait le téléspectateur. Et le meilleur exemple, c'est un sport aux États-Unis, c'est le football américain, où les footballeuses jouent en bikini et ça cartonne aux États-Unis. Les Américains adorent ça. Donc voilà, c'est un peu ça qui me dérange en fait.
Voilà, moi je voudrais quand même ajouter que Ronaldo montre ses abdominaux plus souvent qu'à son tour. C'est plus facile pour nous à la radio. Elle est intéressante cette remarque de François. Je voudrais la coupler avec cette remarque d'Anaïs sur le hashtag Telson. Elle parle de Serena Williams, l'une des joueuses les plus dominantes de sa discipline. Et pourtant, à chaque fois que je regarde les commentaires la concernant sur les réseaux sociaux ou dans la presse, on lui reproche, là pour le coup, son manque d'élégance, son jeu trop puissant et parfois trop ennuyeux, des commentaires qu'on ne fait jamais vis-à-vis des hommes. Il faut passer par la case sexy. Il a fallu longtemps passer, on va dire, Aurélie Bresson, par la case sexy pour qu'on s'intéresse au sport féminin.
C'est ça qui est dommage, de toujours mettre la femme dans la catégorie féminin. C'est comme dans les médias. Pourquoi vous allez dans les kiosques et vous avez un rayon féminin et il n'y a pas un rayon masculin? Pourquoi toujours mettre la femme dans une case? Pourquoi elle doit être toujours féminine? Pourquoi toujours être sexy? Alors que c'est pas ce qu'on demande à l'homme. Forcément, c'est...
Je trouve quand même que c'est de moins en moins le cas. C'est vrai qu'on met souvent l'accent sur ce genre de problématique. Bon, c'est clair que moi, en judo, j'avais pas cette problématique. Hein. J'étais en kimono, c'est un truc blanc qui ressemble à un pyjama. Honnêtement, on me demandait pas forcément d'exceptuer. Par contre, on nous demandait de faire des performances et de réitérer ces performances tout au long de sa carrière. Donc,
mais en a parlé en foot, la tenue des filles, notamment. Il y a eu des remarques sur « oui, c'est pas très sexy ce short ».
Dans le hand aussi, ils ont essayé. Certains clubs ont impulsé des jupes. Ça n'a pas forcément plu, hein. C'était pas bien reçu.
De toute façon, il n'y a pas de sujet à partir du moment où la tenue de football, c'est des crampons, un short, un maillot et des chaussettes. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi la problématique où il n'y avait pas non plus d'efforts de fait de la part des équipementiers, où les féminines se retrouvaient aussi à jouer avec des t-shirts XXL. Donc il y a aussi, je pense, un juste milieu à trouver. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un sujet.
Voilà, Sébastien voudrait faire cette remarque et nous dire, puisqu'on en parlait à l'instant, que en tennis de table, les compétitions départementales et régionales sont des compétitions mixtes. Il y a effectivement des sports de ce genre-là qui peuvent être mixtes. Soledad, bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Merci.
Allez-y, Soledad.
Donc, je suis maman des trois garçons. J'ai un garçon au niveau école, un garçon au niveau collège et un garçon au niveau lycée. Mm-hmm. Donc, du coup, mon garçon qui est à ces moments me dit qu'à chaque fois qu'ils vont jouer au basket ou à un autre sport ensemble avec toute la classe, son prof lui dit, et lui, à tous les garçons, lui dit il faut faire attention aux filles. Mm-hmm. Alors qu'ils sont 10 ans, et filles et garçons à cet âge-là, c'est un peu la même chose. Et apparemment, les filles sont fragiles. Donc, ça met déjà dans la tête des enfants, surtout des garçons, que les filles sont différentes, qu'elles sont fragiles, qu'il faut faire attention aux filles. Après, il y a mon fils qui est au collège, qu'en fait, lui, il se voit privé de jouer avec les filles de sa classe parce qu'ils sont séparés. Du coup, pour pratiquer le sport, ils les séparent. Il y a deux filles d'un côté, les garçons d'un autre, puis voilà. Et mon fils qui est en lycée, Terminal vient de passer son bac EPS cette année. Il y a une épreuve du bac qui consiste à courir 3 fois 500 mètres. Alors, pour avoir une certaine note, les garçons doivent courir à un niveau différent que les filles. En fait, ils doivent courir plus que les filles. Quand normalement, il me semble que les 500 et n'importe qui devraient être du coup notés par sa performance et par son développement, de savoir la développer de sa performance, c'est pas par rapport à si les filles ou garçons, c'est pas une question de chance, c'est une question de pratique, de s'améliorer.
Merci beaucoup Soledad, pardon de vous interrompre, mais la ligne n'est pas très bonne, mais on a bien compris à travers les trois âges de vos trois garçons, les trois stades qui sont totalement exemplaires. Alors d'abord, les filles sont fragiles, ensuite on n'a plus le droit de jouer avec les filles alors qu'on l'a fait jusqu'à présent, et en troisième lieu, on demande aux garçons d'être plus forts que les filles. C'est quand même énorme ça, Frédéric Jocinet.
Oui, on en parlait tout à l'heure, c'est une question aussi d'éducation. Et au travers le rôle de l'éducation, c'est évidemment le rôle du milieu scolaire. Finalement, d'ailleurs, Soledad, elle le disait, il y a donc un fils qui est en primaire, qui est à l'école, un deuxième qui est au collège et un troisième qui est au lycée. Donc il y a bien une correspondance avec le milieu scolaire, en fait. Donc c'est aussi dans ce milieu scolaire où on doit passer par l'éducation et pas justement enlever tous les stéréotypes du genre, notamment à travers le sport.
Mais là, on en vient du coup à parler de la formation des éducateurs, de la formation des enseignants et de l'éducation des parents aussi. C'est eux qui enseignent, qui encadrent les enfants. Leur réflexion doit venir de là quand même.
Mathilde, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Mathilde. Alors, je vous le dis tout net, Mathilde, il est 19h57, essayez d'aller vite.
Oui, je vais vite. Moi, je rencontre le problème inverse, c'est-à-dire que je fais de la danse, qui pour certains n'est pas forcément considéré comme un sport, mais on va pas commencer là-dessus.
Non.
Et on n'est que des filles, on n'a pas un seul garçon, et on a énormément de mal, on va dire, à recruter. On est obligé, dans certaines chorégraphies, d'adapter les choses, les mouvements, ou alors de danser entre filles, certaines habillées en filles, d'autres habillées en garçons, avec des pantalons, avec des chapeaux, parce qu'on n'a pas de garçon. Donc tout à l'heure, il y avait une auditrice qui parlait de mixité, et c'est vraiment ça, plus que féminisation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des sports où il n'y a que des filles, et on a besoin de garçons, donc venez danser.
Eh ben, le message est lancé, mais venez danser, absolument.
Bonne conclusion.
Frédéric Jocinet a raison, venez danser. Mais vous parlez de la gym, on n'en parlait pas, mais on était dans le même esprit. Effectivement, la gymnastique, c'est pour les filles, le football, c'est pour les garçons. On est quand même beaucoup encore dans ce stéréotype-là, y compris à l'école.
C'est comme la société, hein, le bleu pour les garçons, le rose pour les filles. Hein,
ouais, même si de moins en moins, parce que il y a encore pas longtemps, c'est vrai que les jeunes filles et même les petites filles se demandaient si elles pouvaient faire tel ou tel sport. Et notamment, ça nous arrivait beaucoup en football. Aujourd'hui, elles demandent plutôt où est-ce qu'elles peuvent aller pratiquer ce sport-là. Je pense que les mentalités, y compris chez les jeunes enfants, est en train d'évoluer.
Vous disiez, vous, par exemple, que le nombre de licenciés avait beaucoup bougé lorsque les garçons gagnaient un sport, et on l'a bien vu d'ailleurs avec le début des Barjots, etc. En handball, il y a eu une recrudescence. Est-ce que ça marche exactement de la même manière avec la fille? Est-ce qu'on verra plein de jeunes handballeuses, là, désormais, comme on a vu peut-être arriver des footballeuses dans des clubs comme les vôtres?
Bah, nous, les filles, en tout cas les A, parce que les sélections jeunes ont déjà gagné des titres, mais les A, c'est pas encore le cas, et j'espère qu'elles vont gagner en 2019, et que ça déclenchera une vague supplémentaire en fait sur le recrutement et même la fidélisation des pratiquantes qui existent aujourd'hui au football. Mais c'est plutôt un travail de fond, et donc c'est vraiment aussi à la Fédé de développer et de structurer la pratique féminine, en l'occurrence le football féminin. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi deux leviers. Le premier levier, c'est évidemment l'impulsion politique, du coup qui doit se mettre en marche et qui doit nous permettre après au sein de la fédération de développer la pratique. Puis après, on n'a quand même pas parlé de quelque chose qui est très, très importante, c'est les ressources économiques, la valorisation du produit, notamment produit foot féminin, etc., pour justement développer cette pratique.
Vous parlez d'infrastructures, notamment, exactement. Le nerf de la guerre étant évidemment l'argent et tout ce qui suit et tout ce qui suit derrière. Juste une remarque, dommage que j'ai oublié de la poser tout à l'heure à Béatrice Edwige, ce serait la dernière, peut-être que vous avez la réponse, Fabrice Rigobert. Est-ce qu'une prime de match d'une championne du monde de handball est la même prime de match que un champion du monde de handball?
Elles sont équivalentes,
exactement,
me semble-t-il.
C'est
pour la première fois, et pour le tennis à Roland-Garros, on s'est arrangé ces dernières années à ce que ce soit exactement la même chose également.
Et on terminera sur cette phrase d'égalité. Merci beaucoup, merci à tous de votre présence au téléphone sonne, et merci à tous qui avaient téléphoné massivement ce soir.